au début de l'année 1807, dans une immobilité rageuse et fiévreuse. Napoléon est là, à Osterode d'abord, puis à Finkenstein ensuite, où il a fait venir sa petite maîtresse, Marie Walewska, attendant l'occasion, espérant une rupture violente avec la Russie, c'est-à-dire cette fois une bataille écrasante, et guettant surtout les résultats de ce qu'il vient de tenter le 21 novembre 1806 à Berlin, en lançant son ordre du blocus continental. Ce qui va en sortir, c'est sa perte. Il faut faire aller la boutique. C'était la formule familière et bon enfant qu'employait quelquefois le César d'importation, il s'était importé lui-même, dont les Français bénéficiaient depuis 1804. La politique extérieure de Napoléon, la succession de ses campagnes, c'est tellement éclatant, tellement éblouissant, que les historiens sérieux, ceux qui sont ravis de cette gloire militaire qu'ils décrivent les pieds au chaud et assis dans leur fauteuil, négligent parfois de nous parler de la politique intérieure. Mais je trouve que c'est très intéressant de voir comment il fait marcher sa boutique, afin quel est le rendement de son commerce. Et bien d'abord, un renforcement croissant du despotisme. Le tribunat, il n'aimait pas ce tribunat. C'était des gens, vous savez, il y a une expression très grossière que je ne veux pas répéter, qu'il employait à propos de ces tribuns, qui étaient des gens qui discutaient. Alors, le tribunat, il avait commencé par l'épurer lui-même en 1802, il l'avait ramené à 50 membres seulement, et en 1807, il le supprime carrément. Plus de tribunat. La presse. Vous vous rappelez peut-être qu'au départ, en Brumaire, il y avait 73 journaux, il en avait réduit le nombre à 13, puis le nombre était passé à 8, et en 1810, le nombre passera à 4. 4 journaux seulement, c'est toujours le même, puisqu'il est rédigé pratiquement par le ministère de l'Intérieur, et dans chaque département, il y a un seul journal, qui est une manière de journal officiel. À côté de la presse, il s'agit de la censure des livres maintenant. C'est en 1810 qu'il invente ça. Vous vous rappelez cette formule qu'il avait eue à propos de l'imprimé? Il n'aimait pas les choses imprimées. Une chose qui est imprimée sans le contrôle du gouvernement, c'est, disait-il, un appel à l'opinion, c'est quelque chose comme une indiscipline. Alors les livres, il veut surveiller les livres aussi. Alors il va créer ce qu'il appelle une direction de la librairie. Et la direction de la librairie, ça sera une censure. Aucun livre ne peut paraître sans être soumis d'abord au censeur, qui l'épluche, qui regarde de tout près. Enfin, les livres également sont contrôlés. Vous avez le renforcement de la police. Fouché était resté très longtemps à la police, puis en 1810, pour des raisons que nous verrons, on va le remplacer par Savary. Savary, c'est un super policier, mais Napoléon est quelqu'un qui se méfie de sa police, alors il a plusieurs polices, il y a des polices parallèles, enfin ça existe dans plusieurs pays, on se surveille les uns les autres, et il a une petite police à laquelle il tient beaucoup, qui est une police mondaine et secrète. Ce sont des gens bien, des gens insoupçonnables, qui se répandent dans les salons et dont on ne se doute pas qu'ils sont des informateurs. Ils lui passent ce que l'on appelait à ce moment-là des nouvelles à la main, c'est-à-dire que tous les deux jours, tous les huit jours, ils envoient des petites notes, des ragots, quoi, sur ce qu'ils ont entendu dire à droite et à gauche. Il y avait là Barrère, je ne sais pas si vous vous rappelez Barrère, qui était un personnage affreux du reste, du moment de la terreur, quelqu'un qui avait détesté Robespierre et qui faisait de la super terreur. Eh bien, Barrère est très rangé maintenant, il a l'air d'un homme très calme, il écoute dans les salons et il fait rapport. Il y a un nommé Fievé, V-E, que l'on retrouvera sous Louis XVIII, où il fera le même travail, toujours d'informateur secret. Il y a une dame. Tout à fait insoupçonnable, c'est une très grande dame, Madame de Bouillé. Ben, on sait aujourd'hui que Madame de Bouillé renseignait secrètement l'empereur. Et puis, il a le contrôle des lettres. Il y a un ministre spécialement pour les postes qui s'appelle Lavalette. Et Lavalette tient un énorme cabinet noir où toutes les correspondances des gens qui semblent importants, enfin qui peuvent avoir une influence sur l'opinion publique, sont étroitement surveillées. Puis vous avez les prisons. Les prisons, il y en avait depuis le départ, naturellement, mais en 1810, il ne va pas hésiter Napoléon à rétablir ce qu'il appellera lui-même les prisons d'État. Alors, les prisons d'État, quoi, c'est des Bastilles. C'est exactement le coup des lettres du cachet d'autrefois, c'est-à-dire que quelqu'un peut être, sans jugement et sans explication, interné. Ça s'appelle l'internement administratif. Il y avait quelque chose qui va jouer aussi, et on ne le sait pas assez, à côté des prisons, c'est les asiles d'aliénés. Lorsque quelqu'un paraît dangereux et que l'on ne veut pas dire qu'il est dangereux, alors on dit qu'il est fou. Alors, les asiles d'aliénés vont recevoir un certain nombre de gens en parfaite santé, mais dont les idées ne correspondent pas à celles de l'empereur et qu'on internera comme fou. Internement administratif, environ 600. Il y avait 600 personnes arrêtées en 1804. Il y en aura plus de 2000 à la fin du règne. Par conséquent, il faut comprendre que les Français sous l'Empire ont vécu exactement sur le régime de la loi des suspects, la loi des suspects de 93. Seulement les historiens qui nous parlent de Napoléon ne parlent pas de loi des suspects parce qu'elle est non écrite. Et d'autre part, parce qu'en 93, c'était les gens de droite qui allaient en prison, alors c'était épouvantable, tandis que maintenant, les 2000 internés sont des gens de gauche, c'est sans aucune importance, c'est ce que M. Madelin appelle le régime tonifiant. L'Église. Eh bien, l'Église, il en est très content, Napoléon. Il dit même, le 21 mars 1806, il dit au Conseil d'État, les prêtres se conduisent très bien, vraiment très bien. Aucun corps de l'État, l'Église, c'est un corps de l'État, vous savez, chez lui, aucun corps de l'État ne parle aussi bien du gouvernement. C'est grâce à eux que la conscription de cette année 1806 a été encore plus facile que les années précédentes. Et surtout, dans cette année 1806, il est arrivé grâce à Caprara, vous savez, le légat Caprara, qui était tout disposé à être gentil avec lui, il est arrivé à faire rédiger et approuver par Rome un catéchisme, le catéchisme impérial. Il faut que je vous en donne quelques citations. Demande, vous savez, le catéchisme, hein, c'est demande-réponse, et puis il faut savoir par cœur la réponse. Alors, demande, quels sont nos devoirs? C'est ce que les gosses doivent apprendre. Quels sont nos devoirs envers Napoléon Ier, notre empereur? Réponse, nous devons à Napoléon Ier, notre empereur, l'amour, le respect, l'obéissance, le service militaire, les impôts qu'il prescrit pour la conservation de l'Empire et du trône. Demande, mais n'y a-t-il pas des motifs particuliers qui doivent nous attacher plus spécialement à Napoléon Ier, notre empereur? Réponse, oui, car il est celui que Dieu a suscité pour rétablir la religion sainte de nos pères, et par la consécration qu'il a reçue du souverain pontife, il est devenu loin du Seigneur, comblant de ses dons notre empereur. Tous les gamins devaient répéter ça comme ça, hein. Comblant de ses dons notre empereur, soit pour la paix, soit pour la guerre, Dieu l'a rendu son image sur la terre. C'est pas fini. Demande, que doit-on penser de ceux qui manqueraient à leur devoir envers Napoléon Ier, notre empereur? Réponse, ceux qui manqueraient à leur devoir envers Napoléon Ier, notre empereur, résisteraient ainsi à l'ordre établi par Dieu même, et selon l'apôtre Paul, ils se rendraient passibles de la damnation éternelle. Vous voyez, c'est du cousu humain. Mais du côté du pape, alors ça va moins bien. Si les évêques français sont parfaits, je vous apporterai quelques citations d'eux. Le pape, il n'est pas du tout content. Pourquoi? Parce qu'on continue à lui dévorer ses états temporels. Vous vous rappelez qu'on lui a pris ses légations, et puis qu'on s'est avancé jusqu'à Ancône, que même Rome va être occupée en février 1807. Alors naturellement, le pape est assez furieux. Et il se défend comme il peut. Il se défend en refusant l'institution des évêques. Vous vous rappelez le procédé, enfin le truc. C'était Napoléon qui nommait. Il dit, je veux qu'un tel soit évêque là. Mais il fallait attendre l'institution canonique, c'est-à-dire que le pape le reconnaisse, le consacre évêque. Ben, le pape, il se défend en disant, ben, je refuse l'institution tant que Napoléon ne m'a pas rendu mon territoire. Il a une très grande arrière-pensée, Napoléon, qu'il faut connaître. Il dit maintenant, je suis le maître de l'Europe. C'est lui qui a créé le grand empire d'Occident. Par conséquent, il serait très juste que la chrétienté ait pour capitale, non plus Rome, ça c'est du passé, mais Paris, puisque j'habite à Paris. Alors, il voudrait établir à Paris le pape lui-même. Il y a une chose embêtante qui s'est produite, c'est qu'on a enlevé le pape. C'était le général Raffet qui a fait ça de son initiative le 6 juillet 1809. C'est un général de gendarmerie. Il avait pénétré dans le Vatican, il s'était emparé de la personne du pape, mais il ne s'était pas contenté de l'arrêter, ça Napoléon était d'accord, l'ordre était même donné, mais il l'avait déporté. Et l'idée de l'empereur, c'était que l'arrestation du pape se fît en catimini, enfin sans bruit, pour le laisser, pour le tenir bien en main, l'empêcher d'écrire. Mais en fait, il ne fallait pas le déporter, surtout pas en France. Étant donné que les Français n'ont pas besoin de savoir que l'empereur est très mal avec le pape, qu'ils se disputent au point qu'on a été obligé de mettre la main sur le pape. Et comme le malheureux Raffet, croyant bien faire, s'étant emparé de la personne du pape, le faisait monter à travers l'Italie et l'arrivait dans la direction de Grenoble, Napoléon intervient et dit « Fouché, c'est une folie », c'est le mot qu'il emploie. C'est une folie, vite, vite, faites-leur partir, que les Français ne voient pas que le pape est mon captif. Alors on va interner le pape à Savone. Savone, vous savez, c'est près de Gênes, sur la côte ligurienne. On va l'interner comment? Mais dans un palais extrêmement agréable. Il a vue sur la mer, il a une nombreuse domesticité. Enfin, ce n'est pas tout à fait un martyr. N'empêche qu'une certaine littérature pieuse parlera du vicaire de Jésus-Christ dans les fers, ou encore du pape martyr. Chateaubriand ne va pas se troubler. Chateaubriand, l'homme du génie du christianisme. L'homme qui est à ce moment-là très gentil avec Napoléon, qui a écrit les martyrs qui lui plaisent bien, qui cherche à se faire nommer directeur général de la librairie de France, enfin de toutes les bibliothèques de France plutôt, ben vous chercherez en vain, sous la plume de Chateaubriand, le grand homme du pontificat, vous chercherez en vain une protestation. Il y en aura eu quelques-unes. Le pape avait lancé une excommunication. Pensez qu'il s'en moquait, Napoléon. Une excommunication, les sacrements pour lui, ça n'existe pas. Excommunication, c'est un terme médiéval. Alors, il hausse les épaules, mais il se dit, ça sera embêtant que les Français le sachent, il y a encore des tas d'idiots qui y croient. Alors, interdiction de répandre en France la bulle d'excommunication. Mais il y a des gens qui ont intérêt à répandre cette bulle. J'en connais deux en particulier, c'est les frères Lamennais. Vous savez, il y a un autre Lamennais célèbre, il avait un frère qui était prêtre, qui avait été pas longtemps avant lui. C'est intéressant de savoir, c'est une parenthèse, mais enfin, je trouve que c'est utile. Savoir que les Lamennais avaient d'abord été enthousiastes, Napoléon, au moment du concordat, enfin, ils le portaient au nu. Seulement, ce sont des fils d'armateurs, les Lamennais. Et nous le verrons à propos du blocus, les armateurs sont pratiquement ruinés par le blocus continental. Alors, au moment où ça ne rapporte plus l'Empire pour eux, au contraire, ça leur nuit, les voilà qui sont saisis d'une frénésie pieuse et qui vont essayer de répandre, et qui répandent en effet un texte qu'on leur a apporté clandestinement de l'excommunication. Mais enfin, ça ne fait pas grand bruit et Napoléon ne s'en trouble pas outre mesure. Son idée est donc de faire de Paris la nouvelle Rome chrétienne. Il voudrait que le pape soit quelque chose, comment dirais-je, un pape assermenté, comme son premier chapelain personnel, ou enfin, si vous voulez, un archichancelier ecclésiastique. Alors, d'autorité, Napoléon enlève les membres du Sacré Collège. C'est les cardinaux, vous savez, c'est parmi les cardinaux qu'on prend le futur pape. Et il les fait venir, il les amène de force à Paris, ils sont là. Il fait déménager les archives du Vatican pour les installer à Paris. Et il a même résolu que l'île de la cité, quoi, autour de Notre-Dame, ça serait l'île ecclésiastique. Il offre au pape, qui est à Savone et qui ne veut rien entendre, il lui offre un palais à construire au besoin dans l'île de la cité, et pour essayer de l'appâter, il lui offre 2 millions. Lui en a 25 par an, c'est-à-dire 100 d'aujourd'hui, mais il en propose 2, c'est-à-dire 8, au pape. Le pape refuse toujours, ça ennuie Bonaparte, c'est une chose qui le préoccupe, Napoléon, qui le préoccupe. Enfin, lui, dans sa correspondance, parle de l'après-traille, comme il faisait autrefois, mais défendu à la presse d'employer un pareil langage. L'anticléricalisme est à son usage strictement personnel. Il n'a pas à se plaindre du clergé français. Je vous parlais de citations que j'allais vous apporter, je vais vous en donner une ou deux. Le cardinal, non, il n'est pas cardinal, il est archevêque. L'archevêque de Cambrai, Rohan, s'écrit en un alexandrin involontaire, « Le grand Napoléon est mon dieu tutélaire. » L'évêque de Besançon, « Vous êtes, sire, le plus grand des héros sorti de la main de Dieu. » En janvier 1809, un prédicateur d'Alençon aura cette formule, « Un être pareil à sa majesté, sur le trône de France, quel honneur pour Dieu. » Bonaparte était ravi de cette phrase, il l'a répété, il disait, « Ils sont tous comme ça. » Hélas, oui, presque tous, mais pas tous. Et je voudrais vous parler de quelqu'un dont l'histoire n'a guère retenu le nom, mais que j'aime bien. Et dans cette histoire funèbre, vous savez, c'est sinistre tout ce que je vais vous raconter. Voilà un point de lumière. C'est l'évêque de Digne. L'évêque de Digne, il s'appelle Bienvenu de Miolis. Il a un frère qui est général, c'est même le général de Miolis qui s'est emparé de Rome en février 1807. Et Monseigneur Bienvenu Miolis, c'est celui qui va servir à Victor Hugo pour les Misérables. Hugo avait entendu parler de ce Miolis, qui était en effet extraordinaire. C'était un évêque qui prenait au sérieux son métier d'évêque, qui refusait d'habiter le palais épiscopal, qui avait transformé son palais épiscopal en un hôpital, qui habitait chez sa sœur dans une maison extrêmement humble. Et bien ça deviendra l'évêque Bienvenu Myriel, vous savez, des Misérables, celui qui exaspérait tellement George Sand. Il faut voir maintenant ce que Bonaparte a réalisé pratiquant la politique de ce qu'il appelait les blocs de granit sur lesquels il allait édifier une nouvelle France. Monsieur Anoto, Gabriel Anoto, dans une étude sur Napoléon, dit « De la boue du directoire, il fit surgir une France de marbre. Avec quoi ?» Eh bien avec le code civil, mais nous en avons déjà parlé. Vous savez, le code civil, c'était une espèce de répertoire des articles du dogme sur la sainteté de la propriété. Mais il a aussi l'idée de l'université. L'université, il y rêve depuis 1806, elle sera constituée en 1808. Et quel est le dessein, enfin quel est le but de l'université? Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'université? C'est très clair. Et il l'indique de la manière la plus nette. Ce que je veux faire avec l'université, c'est m'emparer de l'esprit de la jeunesse bourgeoise. La fidélité à la monarchie impériale devra être enseignée dans les lycées. La monarchie impériale qui est dépositaire du bonheur des peuples et fidélité à la dynastie napoléonienne conservatrice de l'unité française. On ne saurait mieux dire. L'université, c'est un instrument d'action sur l'opinion. Non pas l'opinion des gens mûrs, mais l'opinion de la jeunesse pour la façonner. Quelle jeunesse? Uniquement la jeunesse bourgeoise. Les autres, ça ne les intéresse pas. Ça n'intéresse pas du tout. Les petites gens, les paysans, l'enseignement primaire, ça n'existera pas. Le même Anoto, qui est tellement dans l'admiration de Napoléon, reconnaît qu'à la fin de l'Empire, les trois quarts des communes françaises étaient sans école primaire. Parce que c'est sans aucune importance. Parce qu'il y a le curé, ou quelquefois les frères ignorantins, mais ce n'est pas nécessaire, le curé qui fait apprendre le catéchisme par cœur. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir, les enfants. Alors, je vais vous apprendre.